Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, bienvenue dans cette émission consacrée au hors-série du Figaro, une nouvelle émission donc d'Au fil des pages. Actualité cinématographique oblige, le hors-série du Figaro nous emmène à la découverte d'un personnage de notre histoire, Marie-Antoinette. Michel de Gégère, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur des hors-séries du Figaro, vous lui consacrez un numéro spécial disponible dans tous les kiosques, Marie-Antoinette, la princesse, l'icône, l'insoumise. Il y a une actualité, c'est le film de Sofia Coppola. Vous l'avez vu, Michel de Gégère ?
Oui, bien sûr.
Et alors ?
Moi, c'est un film que j'ai plutôt aimé. C'est un film qui n'est pas sans défaut, qui comporte beaucoup de petites erreurs historiques, de détails, quelques personnages caricaturaux, mais qui, dans l'ensemble, à mon avis, est un film très beau, très intéressant, qui donne d'abord une très très belle vision de Versailles. Versailles est filmé magnifiquement, comme il ne l'a jamais été, et qui donne ensuite un souffle de jeunesse à cette cour de Versailles, à ces personnages de Louis XVI et de Marie-Antoinette, que l'on a un petit peu toujours l'habitude de présenter comme un homme et une femme mûrs, et dont je vous rappelle qu'ils ont été rois et reines à 19 et 18 ans. Sofia Coppola s'est intéressée à Marie-Antoinette l'adolescente. Elle s'est rappelée que Marie-Antoinette a 14 ans et demi lorsqu'elle arrive à la cour de Versailles. C'est donc d'abord une adolescente déracinée et elle montre, ma foi, assez bien ce déracinement, ce spleen de Marie-Antoinette avec des costumes magnifiques, avec un très grand art de l'ellipse, avec une très grande beauté de l'image. Alors c'est vrai, il y a des erreurs historiques, il y a des défauts. On voit Marie-Antoinette boire sans cesse du champagne alors qu'elle était très sobre. On la voit s'empiffrer de macarons alors qu'elle mangeait peu de la volaille bouillie et qu'elle faisait assez attention à sa ligne. On voit Louis XV et Madame du Barry, ils sont présentés comme un espèce de patron de ranch texan avec sa poule de saloon, alors que ça ne correspondait absolument pas à l'élégance de Louis XVI et à la très grande beauté de Madame du Barry, et au ton de cour que Madame du Barry, malgré son passé, était parvenue à adopter. Il y a comme cela un certain nombre de petits détails aussi, où l'on voit les courtisans trinquer au champagne en se disant « santé », qui sentent un petit peu un savoir-vivre plutôt tiré des séries américaines que de la cour de Versailles. Mais si l'on passe sur ces petits détails, qui malgré tout ne sont pas grand-chose dans l'ensemble du film, eh bien c'est une très belle fresque sur la fin de l'Ancien Régime et sur cette adolescence de Marie-Antoinette et cette personnalité complexe qui est évoquée à travers un portrait assez subtil, assez complexe et assez beau.
Alors, un article de Norbert Multo dans le hors-série du Figaro explique que le personnage de Marie-Antoinette est un personnage que l'on retrouve très souvent dans le cinéma et, étrangement, j'allais dire, Marie-Antoinette est vue très positivement.
Pas toujours, toujours. Il y a eu beaucoup, la plupart des films, effectivement, véhiculent une vision sympathique de Marie-Antoinette, avec notamment un film très hollywoodien des années 30 avec Norma Scherrer dans le rôle de Marie-Antoinette et plus près de nous, Michel Morgan dans les années 50 dans le film de Jean Delannoy. Mais au moment même où paraissait le film de Norma Scherrer dans les années 36-37, eh bien, Jean Renoir tournait sa Marseillaise avec une documentation fournie par le Parti communiste et présentait Marie-Antoinette comme à la fois une imbécile, une perverse et une dépensière qui ruinait l'État de ses frivolités. Donc vous voyez, le personnage a toujours été contrasté, c'est-à-dire que dans la version cinématographique, comme souvent d'ailleurs dans les livres qui lui ont été consacrés, eh bien on choisit soit l'icône, la sainte, soit au contraire la caricature de l'autrichienne Honi. Je crois qu'avec le temps, les historiens sont arrivés à brosser un portrait plus nuancé de Marie-Antoinette et que à retracer aussi son évolution, parce que même si elle meurt de façon très édifiante, même si elle meurt en martyr, elle n'a pas non plus une vie de sainte, et c'est toute la complexité du personnage que justement avoir suivi une évolution qui a pu l'amener de la frivolité à la profondeur. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on peut parler plus calmement, plus sereinement de la complexité de Marie-Antoinette et que le film de Sofia Coppola, dans une certaine mesure, participe de ce retour à la complexité des choses.
Je renvoie nos auditeurs à la bibliographie en fin du hors-série du Figaro qui reprend les mémoires et également les livres d'histoire. Venons-en au personnage, Michel de Gégère, au personnage historique. Il y a 12 date que Laurent Dandrieux commente dans le hors-série du Figaro. Et une date très importante, c'est la naissance de la future Madame Royale. Et Laurent Dandrieux dit que cette date est une date très importante. Pourquoi ? Parce que il y a une métamorphose, on observe une métamorphose chez le personnage de Marie-Antoinette qui a mis énormément de temps à avoir des enfants.
Oui, Marie-Antoinette se marie en 1770 et elle a son premier enfant, la future Madame Royale, en 1778, soit 8 ans plus tard. Pourquoi ? Mais parce que le mariage mettra 7 ans à être tout à fait consommé, ce qui fera beaucoup parler, beaucoup écrire dans toutes les cours européennes. Il est vrai que les premières années du mariage de Marie-Antoinette sont difficiles, que ce couple a du mal. D'abord, au départ, ce sont des enfants. Ils ont, encore une fois, elle n'a pas 15 ans lorsqu'elle se marie, il n'en a pas 16. Le mariage n'est pas consommé tout de suite, on ne s'en affole pas, ça c'est déjà vu. Le père de Louis XVI, qui ensuite sera d'ailleurs très amoureux de sa femme, avait mis lui aussi 6 mois à consommer son mariage. Au même moment, l'infant de Parme connaît les mêmes, qui est le cousin de Louis XVI, commet les mêmes mésaventures. Ces mariages royaux sont souvent des mariages d'adolescents et d'enfants. Et donc, au départ, ça n'a pas ces nuits de noces ratées n'ont pas le caractère extraordinaire qu'il peut nous apparaître. Mais le temps passe et le mariage n'est pas consommé. Louis XVI et Marie-Antoinette ont des goûts extrêmement différents. Louis XVI se méfie de Marie-Antoinette car il a été élevé dans l'aversion pour l'alliance autrichienne, le retournement des alliances fait par Louis XV. Son entourage l'incite à se détourner de la reine. Il y a un certain nombre de malentendus, de difficultés physiques sur lesquelles on ne peut pas s'apesantir qui font que ce mariage, pendant 7 ans, ne va pas être complètement consommé jusqu'à ce que Joseph II, l'empereur Joseph II, qui est le frère de Marie-Antoinette, vienne faire un voyage incognito en France et raisonne un peu les deux époux, le mari et la femme, car il faut dire que Louis XVI n'est pas le seul en cause dans cette affaire, c'est que Marie-Antoinette, peut-être pour fuir ce mariage non consommé, mais aussi par souci d'éviter le sort des reines de France, qui est d'aller de maternité en maternité, d'être mère chaque année, ne court pas tellement après la consommation de ce mariage, elle a peur de la maternité, elle espère retarder le moment où elle sera mère, et il faut bien dire que dans toutes les premières années du règne, à partir de 1774, alors qu'elle a 18-19 ans, eh bien, elle se jette dans une vie de frivolité, elle court les bals à l'opéra et souvent, elle rentre se coucher à l'heure où son mari se lève, ce qui n'aide pas à l'épanouissement de leur vie conjugale. Donc les torts sont partagés. D'un côté, une jeune femme un peu frivole qui s'étourdit du plaisir d'être reine, d'être la plus admirée, la plus aimée, la plus fêtée. Et de l'autre, un jeune homme timide qui a des difficultés à consommer ce mariage. Et à la suite de l'intervention de Joseph II, eh bien, le mariage sera pleinement consommé en 1777 et Marie-Thérèse, la première fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, naîtra en 1778. 3 autres enfants suivront, le dauphin Louis-Joseph, le premier dauphin qui mourra en 1789, puis le futur Louis XVII et enfin une petite fille, Béatrice, qui mourra très jeune, Béatrice Sophie, qui mourra très jeune et dont on voit le berceau vide dans un des tableaux de Madame Vigée-Lebrun. Alors c'est vrai que la naissance de Madame Royale est une charnière dans la vie de Marie-Antoinette car Marie-Antoinette va se découvrir un instinct de mère. Ça fait partie de sa modernité. Elle a un instinct maternel très développé et en même temps la volonté d'élever elle-même ses enfants, de s'occuper personnellement de l'éducation de ses enfants. Et donc, elle va renoncer un petit peu à toute une partie de sa vie de dissipation pour justement se consacrer à ses enfants. Le paradoxe, c'est que les pamphlets qui jetteront le discrédit sur elle en s'appuyant sur ces années de frivolité vont au contraire se multiplier à ce moment, alors que justement ils n'auront plus lieu d'être, alors que Marie-Antoinette sera en train de mûrir et de changer, mais les pamphlétaires n'en sauront rien et en tout cas n'en diront rien à leur public.
Est-ce que ces rapports changent, ces rapports avec le roi ?
Écoutez, oui, ces rapports changent dans la mesure où d'abord, il n'y a plus cette pression extraordinaire. Il faut imaginer ce qu'est la cour de Versailles et la situation de ce couple, de ce jeune couple, où tout le monde chuchote pendant des années sur cette question, où lorsque le roi, les premières années, se rend dans la chambre de la reine, car le roi et la reine en France ne font pas lit commun, eh bien, les courtisans chuchotent, le roi va chez la reine. Lorsque la reine lui a fermé la porte au nez, ce qui arrive et qu'il repasse le salon de l'œil de bœuf, l'antichambre de l'œil de bœuf, vous imaginez les commentaires. Donc, toute cette pression extraordinaire qu'il y avait sur eux pour les, les engager à consommer ce mariage pour commenter leur situation conjugale va se relâcher. Le roi sera très heureux d'avoir des enfants. Cette perspective d'avoir des enfants ensemble crée une vie familiale qui les rapproche. Il n'empêche que c'est aussi l'époque où Marie-Antoinette est prise d'une passion amoureuse pour Fersen, et la tendresse et l'estime qu'elle commence à éprouver certainement pour Louis XVI n'empêche pas que son cœur bat ailleurs et bat pour Fersen. Mmh.
Il y a une solidarité que montre d'ailleurs Laurent d'Andrieux dans leur série du Figaro, et cette solidarité il la montre en 1789 quand la foule est à Versailles.
Alors c'est ce que j'allais vous dire, la vraie solidarité entre Louis XVI et Marie-Antoinette, elle naît plus tard, elle naît dans l'épreuve, elle naît face à la Révolution. Il est certain qu'aux approches de la Révolution, Louis XVI est atteint d'un abattement, alors que ça n'est pas du tout le roi besogneux, irrésolu et incapable qu'a montré une certaine historiographie et un certain nombre de romans historiques, mais au contraire un roi réformateur d'une grande profondeur, d'une grande culture, d'une grande intelligence, qui a entrepris en 1787 une révolution royale qui aurait pu jeter les fondements, les bases d'un nouveau régime dans la continuité avec l'ancien. Cette révolution royale s'est heurtée à l'intransigeance, à l'égoïsme des grands, des privilégiés qui ont saboté le grand projet, le grand dessein du roi. Et à partir de 1787, c'est vrai que devant l'échec de ces entreprises, Louis XVI est pris de ce que l'on peut considérer comme une sorte d'état dépressif. Et la reine, à ce moment-là, va intervenir en politique, alors qu'il l'avait tenu à l'écart de la politique pendant des années jusque-là, va intervenir en politique pour se substituer à la défaillance du roi et va être à ses côtés dans toutes les épreuves. On le voit d'ailleurs dans le film, lorsque la foule envahit Versailles pour tuer la reine. Eh bien, d'abord, le roi part chercher la reine pour la défendre contre les émeutiers. Ensuite, la reine refuse de se séparer du roi. Et tout au long de la Révolution, la reine refusera toutes les solutions qui consistent à la faire fuir, à la mettre à l'abri en la séparant de la personne du roi. Et puis, je crois que dans leur couple, il y a une dernière étape qui est l'étape du temple, où enfin, après tant d'années, ils vont vivre ensemble une espèce de vie bourgeoise dans la captivité. Et là, dans cette vie bourgeoise, dans cette vie domestique, où ils vivent avec leurs enfants, où Louis XVI s'occupe de l'éducation de Louis XVII, du dauphin, du futur Louis XVII, eh bien, il y aura un très grand rapprochement, parce que Louis XVI apparaîtra à Marie-Antoinette dans toute sa grandeur. Et je crois que l'estime ne cessera de s'approfondir jusqu'à la mort du roi, et que lorsque le roi est conduit à l'échafaud, eh bien, la peine de Marie-Antoinette n'est pas feinte et son affection pour son mari est immense.
Vous insistez, vous, Michel de Gégère, dans votre éditorial, sur une forme de modernité chez Marie-Antoinette.
Oui, je crois qu'il y a une modernité malheureuse. Alors c'est impensif de toujours vouloir que les personnages du passé, surtout lorsqu'ils font l'objet d'une certaine admiration, il est de coutume de dire que ce qui est formidable chez eux, c'est qu'ils sont modernes. Je crois qu'au contraire, dans le cas de Marie-Antoinette, pour une fois c'est vrai, mais c'est son drame. Le drame de Marie-Antoinette, c'est sa modernité. C'est-à-dire que Marie-Antoinette, qui certainement était très hostile au courant des Lumières, en était malgré elle imbibée. Si vous voulez, son souhait d'avoir une vie personnelle, son souhait d'avoir une vie privée, de fuir l'étiquette de Louis XIV, l'étiquette de la cour de Versailles, pour avoir une vie privée à Trianon, le rêve rousseauiste au fond du hameau de Marie-Antoinette à Versailles, qui est un chapitre, la nouvelle Héloïse joue à la bergère dans les alentours de Trianon, eh bien montre que Marie-Antoinette, au fond, malgré qu'elle en ait, était imprégnée des mœurs du temps, de la pensée dominante et donc de l'aspiration individualiste au bonheur privé. Or, le drame de Marie-Antoinette, c'est qu'une reine n'est pas faite pour le bonheur individuel. La reine est faite pour être exemplaire, la reine est faite pour jouer un rôle dans une immense représentation, une sorte de liturgie qui est la liturgie royale. Elle doit donner des enfants au roi, donner des héritiers à la couronne et en même temps incarner à ses côtés, lui est le père de la nation, elle en quelque sorte en est la mère, elle doit incarner la perfection du rôle de la femme, de l'épouse, de la mère. Et c'est ce que Marie-Antoinette n'a pas compris. Elle a cru que être reine, comme le disait Stéphane Zweig, c'était être la femme la plus belle et la plus admirée de la cour. Oui, peut-être, mais c'était aussi être la femme la plus respectable et la plus respectée. Et ça n'a pas été le cas, parce que justement, elle a couru après cette chimère du bonheur individuel. Et c'est en cela que réside sa modernité, et cette modernité a fait son drame.
Merci beaucoup, Michel de Gégère. Vous nous présentiez le hors-série du Figaro consacré à Marie-Antoinette, disponible dans tous les kiosques au prix de 7,50 €. Je signale également le Figaro Collection, que vous dirigez également, l'esprit des lieux consacré à Versailles, les parcs, les jardins et au petit Trianon, bien évidemment. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous.